France Culture.
Goliarda.
Goliarda Sapienza.
Page arrachée à Goliarda Sapienza.
Goliarda. Goliarda. Goliarda.
Texte choisi et présenté Goliarda. Par Frédéric Martin. Goliarda. Quatrième épisode.
La prison. Écrit en 1981, l'université de Rybibia est sans doute le texte le plus fantastique de Goliarda Sapienza. L'échec qu'avait connu l'art de la joie et la bascule de la société italienne dans les années de plomb, que l'on présente souvent comme un climat de guerre civile larvée, avait plongé Goliarda Sapienza dans un profond moment de détresse. À tel point que son mari, Angelo Maria Pellegrino, considère que le vol de bijoux qui l'entraîna dans cette prison de femmes à Rome fut pour elle le seul moyen qu'elle trouva de sortir de la dépression. Et c'est donc une Goliarda Sapienza âgée, puisqu'elle a presque une soixantaine d'années, et à bout de force, qui arrive dans la prison de Rybibia.
Toute sirène hurlante ? Ou je suis devenue une criminelle très importante, ou eux, c'est presque 10h du soir, ont seulement hâte de rentrer dans leur foyer. Nous traversons la ville qui m'apparaît plus somptueuse et plus immense que jamais. La proximité de ces carabiniers, au corps prêt à bondir, déjà tendus vers leur vie privée, dénoue la contraction de mes nerfs qui, je le comprends maintenant, n'était que peur de leur force physique. Une fois déjà, j'ai éprouvé cette terreur d'être au milieu d'hommes hostiles. Ce peu d'assurance que croit avoir la femme, toute la supériorité que parfois vous donne un amant, un ami, un fils, disparaissent devant l'infériorité musculaire, tout simplement musculaire, ressentie entre deux ou trois hommes qui n'ont plus besoin de feindre le respect, l'admiration et la pitié parce que vous êtes femme et plus faible qu'eux. Une fois déjà, je me suis trouvée dans une situation semblable et c'était du temps des Allemands. Comment ai-je pu oublier le silence menaçant qui emplissait le petit espace d'une voiture identique à celle-ci, l'odeur âcre du tissu de leurs uniformes mêlée à la senteur métallique des boucles de ceinturon, des boutons. Il est difficile d'en faire des Allemands, de ces carabiniers. Ils ne portent pas d'uniforme. Passer le grand portail vert sombre, de quelques poussées légères et indifférentes, ils me sortent de la voiture, me déposent comme un paquet négligeable sous les yeux de deux petites femmes souriantes et misérables dans leurs blouses bleues, trop larges et informes, de dames de service d'école élémentaire. Enfin, les pas pesants de ces hommes s'éloignent en résonnant dans la grande entrée vide. Ils se redirigent vers la sortie. Je suis au milieu de femmes. Probablement, cette pensée me fait-elle sourire. Et mon sourire étonne la petite femme qui, dans sa large blouse de dame de service, avec des gestes vacillants d'oiseau affamé, fouille soigneusement mon sac. Il ne faut pas que je sourie, je dérange son travail. Dur travail, me dit-elle du regard, tandis que l'autre, plus en chair, m'intime. Allons, allons, déshabillez-vous. Vous devez tout enlever, tout. Dans leurs mains, mes vêtements sont fouillés avec une solennité impressionnante. Puis elles me font faire une flexion, genoux écartés, et je comprends, c'est pour la drogue, je pourrais en avoir caché dans le vagin. Mais que portez-vous ? Une perruque ? Vos cheveux sont tellement beaux ! Teresa, regarde un peu ! Teresa est le premier prénom féminin que j'entends à la place de adjudant. Faites-la passer. Appelez-moi le brigadier Mancuso. À vos ordres, capitaine, etc. Ce sont des personnes qui me scrutent, et non des agents dépourvus d'émotions, tels que m'étaient apparus jusque-là ces curieux porte-manteaux sommairement vêtus et comme suspendus à la lumière incertaine de cette grande pièce vide. Tandis que Teresa me tire un peu les cheveux et fait
« Non, non, ils sont vrais !»
Je me rhabille en hâte, brusquement intimidée, comme au premier jour d'école devant la maîtresse.
Je sens mon corps redevenu enfant se figer maladroitement au garde à vous.
Pourquoi cette sensation puérile? Je n'ai plus de peur physique maintenant. D'un revers de main, je pourrais les abattre toutes les deux en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. La réponse vient immédiatement quand une dame de service de chaque côté on m'ordonne d'avancer. Comme autrefois, au premier jour d'école, j'éprouve la sensation panique de devoir entrer dans un lieu mystérieux et puissant dont je ne sais rien et où rien ne dépendra plus désormais de ma volonté. Ce long couloir large et bas, éclairé tous les 10-15 mètres par de faibles lampes verdâtres, est si nouveau pour mes émotions habituelles que, en effet, l'espace d'un instant, je recule. Les deux femmes aussi s'arrêtent et me fixent. Leur regard dit « Tu ne peux que nous suivre ».
Arrivée en prison sous le signe de la dépression, Goliarda Sapienza va très rapidement retrouver goût à la vie, au point de faire de cette prison une université. Le texte qui suit montre la grâce avec laquelle elle va regarder les gens de cette prison. Rappelons que les prisons italiennes de cette époque sont des prisons où se retrouvent des prisonniers de droit commun et des prisonniers politiques. Et c'est dans cette agora de femmes emprisonnées que Goliarda tout d'un coup va retrouver le goût de l'existence.
La prison fait retomber en enfance. Telle est ma pensée au réveil. Est-ce le cas pour toutes ou seulement pour moi? L'impatience de le vérifier auprès des autres détenus me donne la nausée. L'impatience est une ennemie en prison, comme sur les bateaux. Il n'y a pas d'espace suffisant pour le rythme précipité de cette émotion. Je note avec quelle impatience, justement, la gardienne a rouvert la porte et c'est comme un coup de poing dans l'estomac pour moi.
Elle vit à moitié dehors et à moitié dedans et par conséquent, l'impatience qu'elle apporte avec elle du dehors nous blesse. Nous qui avons déjà pris un rythme hors du temps. En me levant et en sortant de la cellule, qu'on referme tout de suite, j'essaie de porter à ma conscience le fait que je ne dois absolument pas me laisser troubler par le rythme du dehors que ces femmes traînent derrière elles. À peine suis-je à l'air libre, je vois, aujourd'hui c'est la grosse affluence, trois femmes qui évoluent lentement dans le soleil. Leur mouvement ne me perturbe pas, ni leur voix, qui ont une intonation traînante. Elles savent qu'aucune sonnerie de téléphone ou sonnette, aucune nouveauté ne nous attendent. En m'asseyant sur le banc, je comprends maintenant la raison de l'hostilité au début. Mon pas était impatient, encore chargé de l'électricité du dehors, rue, circulation, hâte. Après être resté une bonne demi-heure tranquille sur le banc, je me lève et commence à faire les 100 pas. Je ne sens pas de regard autour de moi. Mon rythme doit s'être accordé au leur. Pour en être bien sûr, je m'arrête et les observe, apparemment distraites par une petite touffe de chicorée qui est en train de se frayer un chemin entre les grosses dalles du pavement. J'en sais tellement peu sur les herbes que je sombre dans la mélancolie. Quand je sortirai, je me mettrai à tout étudier sur les plantes. Quand je sortirai. Autre chose à faire, ne jamais penser à l'avenir dans cet endroit. L'avenir est toujours rempli de portes imaginaires dont on croit avoir les clés. Ici, les clés, ce sont les autres qui les ont sans équivoque. Même celles de chez moi, j'y pense avec une brusque panique en les cherchant mécaniquement dans les poches de ma veste. Mes poches sont vides. Mes clés sont restées dans le sac, avec un numéro. Au milieu de milliers de numéros poussiéreux, dans quelques bureaux souterrains. Le fait de se sentir un numéro ne plaît à personne. Pour voir si j'ai une consistance, si j'ai un poids quelconque, je me dirige vers l'autre banc. Mes jambes fonctionnent. Une grosse femme qui est assise se pousse pour me faire de la place. Elle m'a vue, donc j'existe. Elle me regarde encore en souriant. Peut-être me parlera-t-elle.
Hé, hey, Tina, qu'est-ce que t'en penses? Depuis combien de temps qu'elle est là, cette dame? T'en fais pas, madame. C'est un jeu qu'on fait toujours. C'est pas pour nous payer ta tête, hein. Ah, c'est qu'ici, l'ennui, il se coupe au couteau. Une nuit, tu dis? Ah non, tu fais erreur. Pour moi, elle a déjà bouilli dans la marmite au moins trois nuits.
Une troisième femme maigre, vêtue de noir, au point de sembler en deuil depuis toujours, se lève et venant se poster à proprement parler sous mon nez, après une inspection de médecin, s'exclame.
Pour moi, elle est arrivée qu'hier soir. Tu vois pas que son pantalon a encore le pli et que ses mains sont propres?
Conne que t'es! Comme toujours, tu comprends rien à rien. Tu le vois pas que son pantalon est en soie? Eh, t'en as jamais vu, de la soie? Si tu sais pas qu'elle se frotte jamais. Hein? Eh, c'est vrai qu'elle se frotte pas, hein, madame? Les mains, ouais, donne à réfléchir. Tu t'en souviens de cette Française, là, celle qui était ici dedans pour trafic de drogue, qui après 10 jours, elle avait les mains propres et sentait le parfum? Hein? Et tu serais pas Française, madame?
Non, mais il y a de l'eau et du savon et je me les suis lavé.
Hé, chut! Tu démolis le jeu comme ça. Et puis voilà, on rigole plus.
Tina s'approche elle aussi et me renifle.
Mmh. Celle-là aussi, elle sent le parfum. Mmh, non, elle est arrivée hier soir et tard même. Hein, parce qu'en une nuit, ici, entre misère et tout, on pue.
Alors, qui perd, paiera. Aouh! Qu'est-ce qu'on joue? 1000 lires? Moi, je dis qu'elle est là depuis 3 nuits. Et toi, madame, dis la vérité, hein? Parce qu'après, nous, on s'informe. Et ça nous plaît pas qu'on se paie notre gueule, hein?
J'essaie de faire le calcul, mais je n'y arrive pas. J'ai peur de me tromper. La grosse femme remarque mon malaise.
Hé, hey, t'émotionnes pas, madame? Ouais, on n'est pas le juge, nous. Calme-toi.
Mon égarement est complet. Ça fait 3 jours... Et on dirait des années. Et le reste, ce sera combien? Une vie. Il me reste encore une vie à passer en prison. Par chance, la grosse femme qui a gagné le pari me tape amicalement sur l'épaule.
Tu m'as fait gagner 1000 lires, madame. Sois contente. Après, on va les boire ensemble.
Je voudrais demander après quoi, mais je crains d'avoir l'air de me moquer d'elle. Pour lui montrer que je me réjouis de sa joie, je dis « Bien sûr, je serai heureuse de boire avec vous. »
Et les autres, vous en dites quoi? On les invite?
Elle recommence à badiner, comme on disait autrefois. Il faut aller dans son sens. On verra si elles sont gentilles et raisonnables. Cette réplique déchaîne chez mes 3 camarades derrière ses frénétiques. Que j'en reste pétrifiée. Même le mannequin de garde s'est penché pour nous regarder. Comment une réplique aussi stupide peut-elle provoquer chez elle contorsions et grimaces puériles? Ces vieilles femmes aussi, dans ce carré entouré de grilles, retombent dans l'enfance la plus imbécile. J'essaie de prendre un ton plus adapté. Mais comment se fait-il que chaque jour ici, il y ait toujours des personnes nouvelles qui disparaissent ensuite comme si on les avait avalées.
Goliarda Sapienza est désormais bien intégrée en prison. Véritablement adoptée par toutes ses collègues, ses détenues, elle en devient une sorte de mascotte et d'observatrice privilégiée. Les pages qui suivent vont décrire une scène de rébellion des prisonnières et vont permettre à Goliarda Sapienza d'exprimer tout son talent littéraire, à tel point que ce texte, ayant marqué la société italienne au moment de sa parution, en 1981, deviendra comme un symbole de cette période, et qu'il existe aujourd'hui un prix Goliarda Sapienza qui est décerné au plus grand texte sur la prison.
Ça fait une bonne heure que nous volons dans les airs en cognant nos ailes au mur, au corps de nos voisines, et rien peut-être ne pourrait parvenir à arrêter l'avalanche de cris, de battements de pieds, d'objets métalliques traînés le long des barreaux des coursives si le cri « les gardiens, oui !» ne renversait ce plaisir sournois en une panique générale d'une peur tout autre. Une femme près de moi hurle.
Fichons le camp, ils cognent ceux-là. Entends-les, ils arrivent au pas de course.
On entend un pas cadencé de marche de Bersaglieri retentir dans le couloir souterrain qui débouche sur le portail métallique du rez-de-chaussée. Beaucoup de détenus s'enfuient, composant des vols fantastiques d'oiseaux frappés de folie. Mais beaucoup restent là, stupéfaites, à fixer la grande bouche ouverte de la sombre caverne, d'où l'on voit enfin surgir un détachement d'hommes qui courent. Nous les comptons.
Ils sont 10,
dit ma voisine.
Non,
je réplique. Ils sont 13.
13.
Nous essayons de les regarder un à un.
Regarde celui-là,
insiste ma voisine.
On est tout jeune. On dirait un enfant.
Le premier, celui qui conduit l'expédition punitive, a de grands yeux noirs, dilatés par le plaisir, et une expression de satisfaction pour toute cette manne de petites oies fragiles à violenter. De fait, les gardiennes ont disparu après avoir ouvert toutes grandes en une seule fois toutes les grilles, et nous sommes seuls. Cependant que ces hommes montent 4 à 4 les marches, muets, puissants, et toutes maintenant vraiment terrorisées, s'enfuient comme des folles sous les coups de poing, les gifles et les coups de pied donnés si violemment qu'on les entend clairement. Même dans le vacarme maintenant gigantesque qui secoue les deux étages. Tandis que dessous, au rez-de-chaussée, où il y a les bureaux, un silence, un vide absolu, indique que gardiennes, médecins, infirmières, éducateurs, psychologues se sont réfugiés dans leurs petits réduits pour n'être pas témoins de ce qui se passe au-dessus, sur les escaliers, les coursives, dans les cellules. Au-dessous de moi, à travers le scintillement du filet métallique, deux gardiens poussent à coups de pied, à coups de poing, une femme le long du mur, si rapidement qu'on la voit se recroqueviller, se transformer en un curieux ballot de chiffon sale. Nous sommes de la chair à fouet, ou de l'ordure, c'est clair. Mais si on se laisse effleurer par cette idée, comme il arrive à cet instant à l'une de mes voisines, et que, par conséquent, on perd tout courage, et qu'on s'enfuit chercher refuge dans sa cellule, on est perdu. Sous mes yeux, comme il arrive avec les chiens, deux gardiens passent devant moi pour la traquer, tandis que je m'aplatis contre la rampe de la coursive, prête, s'il le faut, à l'enjamber, à me jeter sur le filet et à aller de l'autre côté. Mais exactement, oui, comme avec les chiens, ces deux hommes, me voyant immobile, passent plus loin pour poursuivre celle qui a fui jusque dans sa cellule, où, au premier hurlement et bruit sourd d'os qui craque, se referme le petit portail métallique qui occulte tout et qui ne laisse filtrer aucun son, même si on y colle l'oreille. Ces gardiens ont laissé sur leur passage un sillage de vin si fort que mon estomac en est complètement retourné. Cependant qu'en rasant les murs et m'efforçant de ne pas vomir, j'essaie d'échapper aux coups de pied et de poing qui volent de tous côtés et aux membres d'une fille ou d'une autre qui, lancés à une vitesse démente, peuvent vous frapper comme des projectiles. Juste à côté de moi, Une petite femme menue tombe à terre, sous un coup asséné, et quelque désir qu'on en ait, il n'y a pas moyen de la tirer, hors des jambes musclées et des grosses chaussures qui la piétinent dans leur course.
Réfugié dans un coin, je m'y aplatis en attendant. Derrière moi, l'immense cloison vitrée reflète une lueur verte de jugement dernier. Le fait qu'aucune de ces femmes n'ait pensé à s'en servir comme refuge ne me surprend pas. D'une certaine façon, toutes préfèrent se jeter dans la mêlée pour jouir jusqu'au bout du grand combat. L'une crie :
courage, les filles ! Coûte que coûte ! Au moins, ils s'apercevront de notre existence dehors. Ils seront dehors. Comme est infâme le traitement qu'on nous inflige.
Le mot « infâme » résonne dans tous les coins. Un instant, je me sens moi aussi une infâme qui préfère s'embusquer plutôt que de descendre dans la mêlée avec elle. Malgré moi, mes jambes se disposent à se détacher du recoin qui me protège et, prise par la logique folle de la centrifugeuse, je me retrouve à hurler moi aussi au milieu de poussées et de cris. En un éclair, la voix d'Ornella me revient à l'esprit et ce qu'elle disait quelques jours plus tôt n'est plus un mystère pour moi.
Si tu as été une fois ici,
si tu as été Goliarda,
n'espère pas ressortir comme tu étais auparavant. Tu ne te sentiras plus jamais quelqu'un du dehors. Et eux, ceux du dehors, ne te considéreront plus jamais comme l'une d'entre eux. Tu verras. Quand tu sortiras, ils t'apporteront peut-être des fleurs. Ils te souhaiteront la bienvenue. Ils t'embrasseront. Mais leur regard sera changé pour toujours quand il se posera sur toi.
Ornella a raison. Je la vois au fond qui hurle à en perdre le souffle, et pourtant il ne lui reste que peu de jours avant de sortir. Mais il n'y a pas de raisonnement qui tienne.
Dehors, il n'y aura aucune porte ouverte pour nous. Alors autant se défouler et pour une fois, faire sentir notre force.
Il n'y a pas de rédemption dans ce lieu.
C'est un mensonge tout ça. Ils veulent seulement nous punir. Mais de façon plus délicate, pour ne pas se charger de trop de responsabilités.
Ce serait mieux s'ils avaient le courage de nous éliminer de manière plus franche.
Des phrases recueillies dans les interminables après-midi d'inertie hurlent plus fort dans mon esprit que ce déluge qui emporte.
C'était Page arrachée à Goliarda Sapienza.
Texte choisi et présenté par Frédéric Martin.
Traduit de l'italien par Nathalie Castagnier.
Avec Claude Degliam, Goliarda Sapienza. Et les voix de Sarah-Jeanne Driot, Charlotte Campana et Marie Daude.
Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière.
Prise de son, montage, mixage, Emmanuel Armang, Claude Niort.
Bruitage, Bertrand Amiel.
Assistant à la réalisation, Félix Levaché.
Réalisation, Laurence Courtois.
L'Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza est paru aux éditions Le Tripode.